c'est l'heure de Luc Lavoie. Bonjour, mon Luc.
Salut, Bernard.
Alors, vas-y avec un petit bilan, tiens.
Un petit bilan, oui, hein? Parce que, vraiment, puisqu'on est aux bonnes nouvelles, il faudrait en parler aussi. Hein,
ben oui, ben oui.
Alors, on le répète, là, au Québec, il y a... excuse-moi, je cherchais mon bouton. Au Québec, il y a 208 cas de COVID et 5 décès dans les dernières 24 heures et 65 917 doses de vaccins en une journée qui ont été administrées. On a déjà un total de 5 648 992. Bon, on va passer vite sur les chiffres. En Ontario, 699 nouveaux cas de coronavirus et 9 morts. En Ontario, on semble avoir finalement repris le contrôle. On arrive à des niveaux à peu près comparables à ce qu'on trouve ici, compte tenu de la différence de population. D'ailleurs, il s'agit du plus petit nombre d'infections en Ontario en une journée depuis le 18 octobre. Alors, là, j'arrive en Angleterre parce que ça reste dans les bonnes nouvelles, bien qu'il y a des inquiétudes, là. Les services de santé britanniques n'ont enregistré mardi aucun mort supplémentaire du coronavirus en 24 heures, une première depuis le 30 juillet 2020, alors que le Royaume-Uni s'inquiète de la montée des cas liés au variant Delta. Tu sais, Bernard, qu'on a arrêté de les appeler B117 puis des affaires comme ça. Là, on leur donne le nom de lettre grecque.
Alors celui-là, c'est lequel?
Vient de l'Inde.
OK, ça, c'est ce qu'on appelait le variant indien. Là, on l'appelle le variant... Comment on l'appelle?
Delta.
Variant Delta. Bon,
ouais,
OK.
Ouais. Alors, faut savoir aussi qu'en Angleterre, ils ont vacciné à une vitesse extraordinaire. Plus de 39 millions de personnes ont eu un premier vaccin, 25 millions en ont eu deux. Mais, et c'est là que ça inquiète, Bernard, le Royaume-Uni a dénombré mardi 3165 cas de contamination supplémentaire.
Est-ce que ce sont des gens non vaccinés, on le sait-tu?
Moi, j'ai pas clairement...
Non?
Non, j'ai pas réussi à trouver si c'était des vaccinés ou pas, mais je crois qu'il y a certaines... Je tiens pour acquis qu'il doit en avoir, qu'ils l'ont été, là, parce qu'on sait, Bernard, que les vaccins sont très, très efficaces, on dit même exceptionnellement efficaces dans ce cas-ci, mais ils sont pas à 100%.
Ben, c'est ce que j'allais dire, c'est ça, ils sont pas à 100%.
Alors, on dit par ailleurs en Angleterre, au Royaume-Uni, que ça reste... Le taux de contamination reste bas... Et malgré les signes d'augmentation, on demeure assez optimiste.
Bon.
Israël, évidemment, le grand laboratoire, ils ont assoupli aujourd'hui un peu plus les restrictions sanitaires prises sur son sol dans le cadre de la lutte, mais ils maintiennent des conditions drastiques pour l'arrivée des visiteurs. Sinon, les dernières restrictions du quotidien ont quasiment toutes été levées. La présentation du passeport vaccinal, si controversé ici, pour aller, par exemple, au restaurant ou à l'hôtel, ça a été annulé mardi.
OK.
Le ministre de la Santé a indiqué que le port du masque, encore obligatoire dans les lieux fermés des transports publics, pourrait être annulé d'ici 2 semaines. Mm. Oublions pas que 55% de la population d'Israël a reçu les 2 doses du vaccin. Alors, c'est quand même assez extraordinaire. Mardi, 4 nouveaux cas, c'est-à-dire aujourd'hui, on nous a annoncé 4 nouveaux cas de patients infectés par la COVID-19 en Israël, mais ça se compare à environ 10 000 dans les mêmes dates l'année passée, tu comprends?
Très bien. Là, Luc, on fait un petit spécial et tu t'y prêtes de très bonne grâce. On va demander à Valérie Beaudoin, la spécialiste des questions américaines, de se joindre à nous. Valérie, bonjour.
Bonjour à vous deux.
Parce qu'on veut parler de ce qui s'appelle le massacre de Tulsa. C'est comme ça qu'on le prononce, Tulsa, Oklahoma. Oui, c'est ça, c'est en Oklahoma. Alors, Valérie, tu vas nous présenter ce qui s'est passé il y a 100 ans aujourd'hui,
oui.
C'est ça?
Oui, 100 ans
aujourd'hui. En fait, 100 ans hier. Hein? C'était
ben
le 31
en fait,
mai.
Ça
c'est 100 ans hier.
Dans la nuit du 31 au 1er juin. Alors, toutes ces réponses sont bonnes parce que c'est vraiment un moment horrible de l'histoire des États-Unis. Et ça a été connu uniquement dans les années 70, même si ça s'est passé en 1921. Je vais t'expliquer pourquoi dans un instant. Juste pour mettre en contexte les gens, Tulsa, en Oklahoma, il y avait un quartier qui s'appelait Greenwood. On appelle ça aussi le Black Wall Street. C'est un endroit là, vraiment de prospérité pour les Noirs aux États-Unis, un des rares endroits où on avait une bourgeoisie américaine, afro-américaine, je devrais dire. Mm-hmm. On avait les hôpitaux, On avait des bureaux d'avocats, des restaurants, l'épicerie. Alors vraiment, un cinéma. C'était extrêmement important comme centre d'affaires en Oklahoma. Et ce qui s'est passé en mai, donc 1921, c'est qu'il y a un Noir qui a été accusé d'avoir tenté d'agresser sexuellement une femme blanche. Donc, il s'est fait emprisonner. Il y a eu des Noirs qui sont venus le défendre, donc des gens du quartier de Greenwood qui sont venus devant le palais de justice. Et il y a des Blancs, bien sûr, qui sont venus aussi. Il y a eu altercation, il y a eu des coups de feu qui ont été tirés. Et là, les Afro-Américains sont retournés dans le quartier de Greenwood. Et c'est après vraiment que ça a mal tourné. Ce qu'on sait, c'est qu'il y aurait des policiers qui auraient armé des hommes blancs pour se rendre dans le quartier. Alors là, on parle pas juste de d'émeutiers, des gens qui se sont rendus. On a fait du pillage, on a brûlé un quartier presque au complet, on a tué des gens. Il y avait même une mitraillette qui était utilisée sur les Noirs qui étaient dans la rue. Les gens tentaient de fuir, certains ont été abattus, d'autres sont devenus des réfugiés par la suite. Alors, on est passé de cette petite bourgeoisie, je dirais de l'Oklahoma, à des gens qui se sont retrouvés à la rue. Et jamais il y a eu compensation pour ce qui s'est passé.
Et non seulement... Et il reste rien de ce quartier?
Il reste encore des choses du quartier. Oui, ça a été rasé en grande partie. Oui, ça, et après ça, on a tenté de reconstruire. Mais ce qui est particulier dans cette histoire-là, c'est qu'autant les Blancs que les Noirs de Tulsa ont voulu cacher ça, cette histoire-là. Pourquoi les Noirs? Parce qu'ils se disaient, nos enfants, sinon, ils vont vouloir se soulever et il va y avoir des représailles et on veut pas un autre massacre comme celui-là. Et les Blancs, bien sûr, c'est pas une histoire qu'on se vante de ce qui s'est passé. C'est un journaliste dans les années 70 qui a révélé cette histoire-là. Par la suite, il y a une commission d'enquête. En 2001, un rapport. Mais toujours, à ce jour, il reste 3 victimes encore vivantes qui étaient jeunes enfants à l'époque, à qui on dit, on veut que justice soit rendue, on veut une réparation. Et imagine-toi, on peut même pas évaluer combien il y a eu de morts. On dit entre 300 parce que les corps ont été jetés dans des cours d'eau ou ont été transportés ailleurs dans des espèces de fosses communes. Donc, vraiment un moment très, je vous dirais, pas très glorieux de l'histoire des États-Unis.
Et pour l'occasion, Joe Biden se rend là cet après-midi pour participer à cette commémoration. Et il y a beaucoup de gens là-bas qui s'attendent à ce qu'il leur annonce quelque chose qui pourrait ressembler à des compensations.
Et ce serait de quel type de
compensation parle-t-on?
Mais pour les descendants, on aurait identifié les descendants, c'est ça? On leur verserait un chèque?
Je crois comprendre, mais c'est un pays organisé. J'imagine qu'en 1921, il devait déjà avoir au moins
des actes de naissance, peut-être?
Des actes de naissance ou l'équivalent d'eux. Mais enfin, il y a toute une organisation et des militants et tout ça qui disent c'est le temps qu'on soit compensé. Et je pense qu'ils ont vraiment raison, là.
Valérie
l'a dit tantôt, là, écoute, ce sont les policiers qui ont donné les armes aux Blancs, il faut le faire.
Oui, alors il y a une responsabilité même de la ville, il y a une responsabilité gouvernementale. Il y a des gens qui ont amassé de l'argent pour célébrer, entre guillemets, là je dis célébrer, mais c'est plutôt souligner les 100 ans du massacre.
Commémorer, oui.
Ils ont ramassé 30 millions. Mais ils se disent, c'est pas à nous avec notre 30 millions de payer les gens qui ont été des victimes, c'est au gouvernement parce qu'on a voulu faire taire ces personnes-là. On n'a pas voulu parler de ce massacre-là. On a parlé pendant des années d'une émeute quand finalement on abattait des gens dans la rue et qu'il y avait cette complicité justement des autorités. Alors Joe Biden, beaucoup de pression sur lui en ce moment, sur ses épaules. C'est le premier président à aller à une activité de commémoration aussi à Tulsa. Donc, pour le centenaire, on le sait, hein, il y a eu une grosse partie de sa victoire qui est due au vote afro-américain aux États-Unis. On est dans un contexte où il y a eu tout ce qui s'est passé, Black Lives Matter et autres. Donc, ça serait peut-être le temps d'avoir ces compensations parce que les gens sont tannés des discours. Ils se sont d'ailleurs présentés devant le Congrès récemment pour dire, avant de mourir, donc les dernières victimes ont dit « on aimerait voir justice ».
Et d'ailleurs, Joe Biden, hier, en a profité pour dire qu'on doit reconnaître le rôle, parlant du gouvernement américain, doit reconnaître le rôle qu'il a joué dans le fait d'arracher leurs richesses et leurs opportunités au quartier noir, dont Greenwood.
Mais comment vous expliquez là, que c'est comme si c'était tombé complètement dans l'oubli, cette affaire-là?
Il y avait ceux qui avaient honte, il y avait ceux qui étaient bien contents du résultat, puis ça leur suffisait. Il y avait ceux qui voulaient pas que les Blancs continuent de se déchaîner sur eux parmi les Noirs. Il y avait des Blancs qui disaient « Ah non, moi, j'ai rien eu à voir avec ça ». Alors, tout ça mis ensemble, ça a fait que c'est tombé dans l'oubli. Et ce que je trouve absolument remarquable dans le cas du massacre de Tulsa, c'est que depuis l'acte, comment l'appelle-t-on, libérateur là, de Lincoln? L'acte d'émancipation. On disait tout le temps, ben les Noirs, de toute façon, ils vivent en ghetto, puis ils sont pas capables de rien faire, puis tout ça, alors que cette ville, ce quartier-là, Greenwood, dans Tulsa, montrait exactement le contraire. Et c'est comme si les Blancs ont dit, ah non, dis-moi pas en plus qu'ils vont devenir prospères, ça va être épouvantable.
Ah oui, c'est exactement ça. Puis j'inviterais les gens là, qui veulent en savoir plus, parce que moi, j'ai écouté ce matin, en venant au travail, The Daily du New York Times, qui fait un podcast avec un historien qui parle de ce qui s'est passé et justement à quel point ça a été caché. Écoute, c'est un professeur qui était victime lui-même du massacre, une victime qui était toujours vivante, qui avait dit ça à ses élèves, qui se disaient, voyons, on n'a jamais entendu parler de ça dans notre propre ville. Et c'est comme ça qu'il y a un journaliste blanc qui a décidé, lui, de présenter. Mais il s'est cogné le nez à tellement de portes, les gens ne voulaient pas sortir cette histoire-là. On était au début des années 70, donc t'imagines tout le temps que ça a pris. Et je suis d'accord avec Luc sur le fait que les gens avaient peur. Les gens ne voulaient pas d'autres représailles. Ils se sont dit, écoutez, on s'est fait prendre nos résidences, on s'est fait prendre nos commerces, on a des membres de notre famille qui sont morts. Est-ce qu'on va aller nous continuer ça? Puis justement, c'est encore la période très, très difficile, les années 20, les années 30, les années 40 et même 50.
Puis les descendants de ces personnes-là, est-ce qu'il y en a certaines qui doivent vivre toujours à Tulsa?
Oui, il y en a qui sont toujours. Il y en a beaucoup qui ont été exilés parce qu'il n'y avait plus de résidence. Ils ont voulu aller vivre ailleurs carrément. Donc là, il faut retrouver. Il y a trois victimes, comme je te disais tout à l'heure.
Trois survivants.
Oui. Et il y a aussi, bon, toutes ces personnes-là, ces descendants. Mais si on ne retrouve pas les corps de ces personnes-là qu'on n'a jamais su où ils sont enterrés, on tente d'ailleurs de les trouver actuellement. Ça va être difficile aussi de savoir qui sont exactement les victimes. Il y a des gens qui sont complètement disparus. Ils n'ont jamais laissé de traces.
Incroyable. On va dire, dans une grande démocratie, hein, mon Luc,
Mais moi,
il faut dire, l'Oklahoma, c'était quand même un État où le mouvement suprémaciste blanc était très, très, très actif.
Le Ku Klux Klan était là, qui était le mieux organisé.
Oui, c'est ça. Alors, il ne faut pas
mais
l'oublier,
ça. Montre,
ça,
là. Ça démontre la profondeur quasiment génétique du racisme. Tu comprends? C'était le contraire de noirs qui nuisaient, puis ta-ta-ta-ta. Ils étaient installés, il y avait une certaine autarcie dans leur quartier, il y avait des gens bien habillés.
Ils étaient prospères.
Ils étaient, pour relativement parlant, assez prospères. Ouais. Mais là, malgré tout, tu trouves une autre raison d'être raciste.
Oui, c'est quelque chose. Ben écoutez, merci à vous deux de nous en avoir parlé. Donc, ça s'appelle « Le massacre de Tulsa ». Il appelle comment
Black Wall Street ou Black Wall Street parce que c'était très prospère à l'époque.
Ouais, Wall Street, alors on dit Wall Street, le quartier financier de New York. Dans ce cas-ci, c'était le Black Wall Street, donc le Wall Street des Noirs, des Afro-Américains, donc dans l'État de l'Oklahoma. Merci Luc, à demain.
À demain Bernard.
Valérie Beaudoin,
salut,
merci
Valérie.
Beaucoup.
Merci toujours
d'avoir
un plaisir.
Participé. Ben oui, absolument. On s'en va à la pause. Au retour, on va parler un petit peu des difficultés que le froid de la fin de semaine a causé à nos producteurs de vin et à nos producteurs de petits fruits également.